Frères et sœurs, ce dimanche est un dimanche particulier puisque l'évangile que nous venons d'entendre, qui est un évangile relativement long, eh bien, dans l'évangile, Jésus fait lui-même l'homélie. Il fait d'abord la parabole, ensuite il explique la difficulté qui se présente, et ensuite il explique la parabole. Donc, je devrais retourner m'asseoir. Seulement, voilà, l'Église, et Jésus parle aussi à travers son Église, l'Église demande à chaque prêtre de faire des homélies tous les dimanches, y compris, et toutes les fêtes. Ce qui explique pourquoi vous êtes obligés de supporter des homélies tous les dimanches, sans exception. Et donc, je vais obéir à Jésus qui parle par son Église. Et je vais reprendre un peu, évidemment, ce que dit Jésus. La première chose qu'il nous faut bien remarquer, c'est que dans la parabole qui nous est donnée, Jésus donne une interprétation pour le moins claire, facile, directe. Et un prêtre, aujourd'hui, n'oserait pas l'interpréter aussi radicalement, cette parabole. Hein, il dit clairement que les cœurs sont durs et ont du mal à accueillir la parole de Dieu, pour se convertir. Et je voudrais citer ce beau passage que Jésus cite, que Jésus cite lui-même dans l'Évangile, ce passage d'Isaïe, et pour nous aider à bien comprendre les enjeux. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Le cœur du peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. C'est pas de la faute à Dieu. Donc c'est moi qui commente là. C'est pas de la faute à Dieu. C'est que le cœur de ce peuple, du peuple, s'est alourdi, parle à ceux qui étaient là devant lui, et il nous parle aussi à nous aujourd'hui. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux volontairement, de peur que leurs yeux ne voient, embêtant ça, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur comprenne et qu'ils ne se convertissent. En fait, ce que nous dit Jésus en citant Isaïe, c'est qu'on peut très bien, en étant de bons croyants, tels les Juifs de l'époque, tels nous aujourd'hui, nous boucher les yeux, être présents à la liturgie de l'Église, entendre Jésus qui nous parle, mais nous boucher les yeux, nous boucher les oreilles, alourdir notre cœur, parce que notre cœur s'est alourdi, pour ne pas nous convertir, pour éviter de trop changer de choses dans notre vie, que ça bouscule trop et que ça remette trop en cause l'ordre bien établi, qui finalement, même s'il y a ses limites, finalement nous convient plutôt bien. C'est assez confortable de vivre sans se poser trop de questions. Et Isaïe, continue, Jésus le cite. C'est important de voir qu'il cite aussi ce petit passage. Il dit « Et moi, je les guérirai. » C'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle, et c'est Dieu qui parle. « Et moi, je les guérirai. » Voilà bien l'œuvre du Seigneur que le Seigneur veut faire aujourd'hui pour nous. Il veut nous guérir. Nous savons que cette guérison que le Seigneur veut accomplir pour nous prend du temps. Ce n'est pas simplement l'intervention d'un moment, mais c'est une guérison de long terme. C'est un traitement long, répétitif, qu'il nous faut avoir pour sortir de cet alourdissement du cœur, de cet aveuglement volontaire, de cette surdité volontaire pour éviter de nous convertir. Il nous faut nous laisser guérir, toucher, rejoindre par Jésus, que le médecin, les pères de l'Église disaient souvent que Jésus était notre médecin, le médecin intervienne. Le médecin des âmes est tout aussi important que le médecin de la terre, et même si nous avions la foi, et je pense que nous l'avons, est plus important que le médecin de la terre. Le médecin de la terre, à un moment, il échoue. À un moment, il échoue et on meurt. Le médecin divin, qu'est Jésus, lui n'échoue jamais si le patient l'accepte. Parce qu'il faut, comme pour les médecins de la terre, il faut que le patient accepte de venir voir le médecin, comme vous le faites aujourd'hui, merci d'être venu. Il faut accepter le diagnostic, pas si évident que ça, dire « je ne suis pas converti, j'ai besoin de me convertir ». C'est un élément essentiel de notre cheminement chrétien, c'est ce qu'on appelle la conversion permanente. Il y a une conversion d'un moment, beaucoup le vivent, une rencontre avec Jésus qui bouleverse notre vie, mais après il y a une conversion permanente qui se maintient. Parce que nous ne sommes pas saints, nous sommes saints par grâce, mais nous ne sommes pas saints dans notre cheminement n'est pas terminé, notre cheminement de sainteté de se poursuivre. Et il nous faut accepter de reconnaître que nous avons encore du chemin à faire et que le Seigneur doit continuer à convertir nos vies et que notre vie n'est pas tout à fait conforme à ce que Jésus attend encore de nous. Tant qu'on n'est pas mort, il faut se dire ça. Au moment de la mort, il faut dire « Seigneur, j'ai confiance en toi et en ta miséricorde. Tu sais que j'ai fait tout ce que je veux. » Comme la petite Thérèse le dit, elle dit « Je ne t'ai rien refusé sur la terre. » Je ne t'ai rien refusé sur la terre. Donc on peut aller dans l'abandon. Donc voilà, il faut accepter le diagnostic et il faut accepter aussi le traitement du Seigneur. Parce que vous le savez, parfois certains, ils ont des traitements mais ils les prennent mal, ils ne sont pas hyper motivés, sont parfois découragés et c'est pareil dans la vie chrétienne. On peut se décourager, on peut dire finalement, après tant d'années, j'en suis encore là, il y a de quoi vraiment baisser les bras. Mais non, il ne le faut pas parce que la sainteté, ça se développe à notre insu aussi. Il nous faut persévérer, c'est ce que le Seigneur nous demande. Persévérer dans le traitement donné par le Seigneur. Ce traitement basique commun à tous, après il y a des nuances pour les uns et les autres, mais ce traitement commun à tous, c'est le traitement de la vie de prière, de l'écoute de la parole de Dieu, de la vie sacramentelle. L'Eucharistie dominicale, le sacrement de la réconciliation régulièrement reçu, voilà le traitement habituel que nous devons vivre, que le Seigneur nous prescrit. Ensuite, il y a des nuances les uns les autres selon notre appel, selon notre vocation. Évidemment, moi, comme prêtre, je vais vivre certaines choses différemment de vous. Je ne dirais pas que je prierai plus que vous, parce que j'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûr que je dois prier beaucoup tous les jours. Et puis, je dois aussi vivre un certain nombre d'éléments liés à mon ministère sacerdotal. Mais vous, célibataires, mariés, veufs, personnes âgées, jeunes, vous devez vivre aussi des choses propres à votre situation, mais le Seigneur attend cela de nous. Et que nous suivions vraiment ce truc. Moi, je le guérirai, c'est vraiment ce que le Seigneur veut faire. Quand nous communions, quand nous entendons la parole, le Seigneur veut agir, transformer des choses dans notre vie, même encore une fois, à notre insu, même si nous ne voyons pas. Si nous sommes dans une attitude saine, une bonne attitude, c'est-à-dire une attitude chrétienne, qui dit « Seigneur, je suis pécheur, viens me sauver. Seigneur, tu m'as donné la foi, mais fais grandir en moi la foi. Seigneur, tu m'as donné d'exercer la charité, mais fais grandir en moi la charité. Seigneur, tu m'as donné de connaître la vérité de la vie divine, de la vie céleste, ce qui est énorme par rapport à beaucoup de nos contemporains, mais donne-moi de grandir dans la foi, eh bien, le Seigneur agit et le traitement est efficace. Et il réussit toujours, à la différence donc des médecins, je ne sais pas s'il y a des médecins parmi nous, mais à la différence des médecins de la terre qui, à un moment ou l'autre, il y a un échec, puisque la mort nous rejoint, la mort biologique nous rejoint. Mais Jésus le dit bien, il faut craindre davantage la mort spirituelle, la mort de l'âme, que la mort physique, parce que la mort physique, c'est pas très grave, mais la mort spirituelle, c'est gravissime, puisque là, notre chemin s'éloigne de Dieu dramatiquement et pour l'éternité. Pour terminer, je reprends les quelques éléments de la parabole. Je paraphrase Jésus, mais rapidement. Première chose, le sol pierreux. On peut penser que quand les graines tombent sur le sol pierreux, qui ne vont pas germer, parce que le mauvais va passer, eh bien on peut penser, ça ne nous concerne pas, ça c'est l'affaire des non-croyants. Alors c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être nous aussi. Parce que Jésus, en citant le mauvais, le démon, il nous montre bien qu'il y a une réalité du combat spirituel. Et que même nous, chrétiens qui avons déjà écouté cette parole, l'avons déjà entendue et fait germer, sinon nous ne serions pas là. Eh bien, même nous, nous pouvons aujourd'hui ne plus entendre la parole parce que le démon, le combat spirituel, nous ne le menons pas suffisamment, nous ne rentrons pas dedans, comme on dit. Il faut rentrer dans le combat spirituel et c'est Jésus qui est notre arme, eh bien, il nous faut rentrer dans le combat spirituel pour accueillir la parole. Il y a un effort de notre part à mener un choix courageux contre les tentations qui seraient de dire aujourd'hui dimanche, c'est comme dimanche dernier et ce sera comme dimanche prochain, puis en plus c'est la période des vacances, donc on se repose. Donc voilà, il n'y a plus de conversion permanente à chercher. Voilà. Et donc, il nous faut rentrer dans le combat spirituel et prendre conscience qu'il y a l'ennemi de Dieu, le mauvais, qui agit, et qui agit dans nos vies et qui nous tente, et que parfois, il n'a même pas besoin de nous tenter, parce qu'il suffit de nous laisser faire. On n'est tellement pas trop motivé qu'il laisse simplement les choses se faire et il ne se passe rien dans nos vies. Donc ça, c'est le premier élément de Jésus que Jésus nous dit. Dans le sol pierreux, la graine dans le sol pierreux. Ensuite, la graine dans le sol peu profond. Donc ça germe vite, hein, ça germe vite parce que le sol est peu profond, mais, dit Jésus, les épreuves arrivent et que se passe-t-il? Et c'est vrai que c'est bien là qu'on peut vérifier, c'est dans l'épreuve qu'on vérifie la qualité de notre vie spirituelle, la profondeur de notre foi. Parce que dans l'épreuve, la révolte peut vite venir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un combat à ce niveau-là, hein, c'est pas... Mais la révolte peut venir, voire même le reproche à Dieu. Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu n'exauces pas ma prière? Pourquoi tu permets cela? Au lieu de rentrer dans cet abandon qui est typiquement chrétien aussi, hein, cet abandon dans les mains de Dieu. Seigneur, je t'ai donné ma vie, désormais ma vie t'appartient. Tu la guides, quelle qu'elle soit. Tout contribue au bien de ceux qui l'aiment, pour dire saint Paul. Et Thérèse de Lisieux dira cette parole surprenante, « Même si Dieu me tuait, je continuerai à lui faire confiance. » Parce que même si toutes les apparences montrent que Dieu m'abandonne, je continue à faire confiance. Et encore, nous pouvons nous souvenir aussi du livre de Job, que je vous conseille de lire, du livre de Job qui médite beaucoup sur cette question-là, la question du mal, pourquoi le mal? Pourquoi le mal est aussi présent auprès de ceux qui aiment Dieu? Pourquoi est-il là? Il nous montre que le mal, l'épreuve, n'est pas l'œuvre de Dieu, mais Dieu est présent auprès d'eux. Et le mystère le plus grand, c'est Jésus sur la croix, qui lui n'a fait aucun mal et qui est tué, martyrisé comme un coupable, sans jamais se plaindre, dans l'abandon. Voilà, c'est notre exemple et il est important de, là aussi, de persévérer, d'être constant et persévérant dans notre vie spirituelle pour qu'au moment de l'épreuve, nous puissions continuer à faire confiance en Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi. Et puis enfin, dans les ronces, alors là, dans les ronces, ça nous concerne plus que jamais, les soucis du monde, à mon Dieu. Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. On peut dire aussi, les soucis, vous les aurez toujours avec vous. Hein. Si vous attendez de ne plus avoir de soucis pour vous occuper de Dieu, des affaires du bon Dieu et du royaume, vous ne ferez jamais rien, je vous le dis d'avance. À un moment, il faut hiérarchiser les choses. Les soucis, on les aura toujours. Un souci chasse l'autre, je ne sais pas si vous avez remarqué, les plus vieux le savent. Hein, il y a un souci qu'on résout, il en arrive un deuxième derrière. Bon. Et quelquefois, les soucis, ils se hiérarchisent entre eux, donc on en résout un, puis après le deuxième, il devient plus gros que prévu. Enfin voilà, donc c'est les soucis, on les aura toujours. La richesse, séduction des richesses. Et nous sommes dans une société, dans nos régions, dans nos pays, nous avons tellement d'abondance. On en parle beaucoup avec l'écologie, parce qu'on fait partie des pays qui polluent le plus, hein, notre terre, hein, qui désordonne notre terre. Les pays pauvres le font beaucoup moins. Eh bien, nous sommes préoccupés par les richesses. Il nous en faut, et il nous en faut encore plus, toujours plus. Et ça nous préoccupe. Alors, on vit dans notre pays, on ne va pas faire comme si on ne vivait pas dans ce pays-là. Même si les papes ont beaucoup insisté pour que nous nous orientions vers une vie plus sobre. Mais, même sans ça, déjà, de relativiser cette question-là. C'est pas grave si je prends 8 jours de vacances en moins parce que je suis un petit peu moins riche. C'est pas très grave. C'est pas grave si je peux pas aller en vacances dans tel pays parce que j'ai pas l'argent. C'est pas grave. C'est pas grave si je peux pas changer ma voiture aussi souvent que prévu, ou peux pas acheter la maison de mes rêves, etc. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et devant Dieu, c'est même zéro pointé. On ne sera pas jugé là-dessus, on sera jugé uniquement sur l'amour, nous dit Jean de la Croix, Saint Jean de la Croix. Voilà. En quelques mots, Faisons attention à la séduction des richesses. Faisons attention à ce que les soucis ne nous submergent pas, alors que nous devons aussi les remettre dans les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être responsable. Et puis, demandons au Seigneur de nous guérir. L'Eucharistie est là pour nous y aider, parce que c'est la grâce de Dieu qui agit. Amen.